Chapitre 25. Une année de prière, revue des réunions, anniversaire de l'ouverture de Fulton Street, réveil extraordinaire, un meurtre et un suicide évités, le pêcheur sauvé. Au moment de terminer cette courte et incomplète esquisse de l'histoire de nos réunions, il sera utile de jeter un coup d'œil sur tout le champ que nous avons parcouru et d'admirer les merveilles opérées par la grâce et par l'amour du Rédempteur. Je sens tout ce que cette histoire a d'imparfait, surtout en ce qu'elle ne fait aucune mention spéciale d'un grand nombre d'autres réunions et de séries de réunions qui ont été tenues aussi bien dans cette ville que dans beaucoup d'autres et dont j'eusse été très heureux de parler. L'année 1858 sera une année mémorable dans l'histoire de la cité de New York à cause de ses réunions mixtes de prières. Au nombre des plus productives en bons fruits se trouve celle qui fut tenue pendant plusieurs semaines dans l'église réformée hollandaise située dans 9th Street et qui finit par être tenue à tour de rôle par plusieurs églises de diverses dénominations dans la partie supérieure de la ville à l'heure de midi. Un grand nombre de pasteurs s'y rendaient au milieu d'un immense concours de peuple. Les samedis, on y invitait tous les enfants que l'on supposait capables de comprendre la vérité, et l'on priait particulièrement pour eux, accompagnant ces prières d'exhortations et d'instructions aussi affectueuses que pressantes. À l'une de ces réunions, tenues dans la première église presbytérienne, nous avons trouvé des pasteurs appartenant à presque toutes les dénominations évangéliques. Le docteur Gillette de l'église baptiste occupait la présidence et le vaste auditoire qui remplissait à midi cette maison tout entière était animé de l'esprit d'amour et de prière. On tenait aussi beaucoup d'autres réunions à tour de rôle, tantôt dans une église, tantôt dans une autre, jusqu'au moment où les chaleurs de l'été obligèrent les familles à se réfugier comme d'ordinaire à la campagne. Le révérend docteur Peck de l'église méthodiste donna une série de services du soir pendant 6 jours consécutifs dans lesquels l'Évangile fut annoncé par 6 pasteurs appartenant chacun à une dénomination différente, tous remplis du même esprit et présentant avec un accord parfait la vérité évangélique et le salut par le Seigneur Jésus-Christ. Cet esprit d'union s'est manifesté également dans tous les lieux. Dans certaines localités, le réveil a été plus prononcé que dans d'autres, mais toutes y ont plus ou moins pris part. C'est ce qu'ont prouvé les rapports lus dans les conférences pastorales que nous avons rapportées plus haut. Il n'est aucune classe de la société qui n'ait subi l'influence de l'Esprit de Dieu. Le riche capitaliste de nos grandes villes et le cultivateur de nos campagnes, le commerçant et le marin, le maître et l'esclave, les pionniers de la civilisation sur les extrêmes frontières de l'Ouest et l'habitant de la Nouvelle-Angleterre, avec toutes ses institutions évangéliques si développées et si prospères, ont tous participé aux bénédictions et à la puissance de cette œuvre de la grâce. On peut dire qu'à vues humaines, le Seigneur n'a pas eu égard à l'apparence des personnes en répandant son esprit, mais qu'il a fait descendre au contraire sa pluie sur les bons et sur les méchants, sur les justes et sur les injustes, tirant ainsi sa gloire et sa louange en tout lieu de l'édification des saints et de la conversion des pécheurs. Il convenait que le jour anniversaire de l'ouverture des réunions de prière de Fulton Street fût célébré comme une grande fête. On avait annoncé d'avance que ce jour-là, le 23 septembre 1858, l'église attenante aux salles de réunion serait ouverte à midi. La foule fut immense. Jamais nous n'avions vu une séance aussi émouvante, ni une assemblée aussi attentive. Ce qu'il y avait de plus frappant, c'était la cordiale union et l'affection que se témoignaient en cette occasion solennelle tous les assistants, pasteurs et laïcs, quoiqu'ils appartinssent à bien des dénominations différentes. Cette rencontre fut un moment de sainte et céleste joie qu'aucun des assistants n'oubliera de sa vie. Le révérend docteur DeWitt, doyen des pasteurs des églises hollandaises, occupa le fauteuil de la présidence. Il ouvrit le service par une brève allocution, dans laquelle il rappela les origines et les développements de la réunion journalière de prière tenue dans les salles de lecture de l'église. Après cela, la congrégation chanta le psaume « J'aime ton règne, Seigneur, j'aime le lieu de ta demeure ». Le révérend docteur Leland de la Caroline du Sud lut ensuite le chapitre 62 d'Ésaïe. Le révérend Carrel, pasteur presbytérien de Newburgh, prononça la prière. Le révérend Krebs de l'église presbytérienne compara l'état religieux et l'aspect actuel de notre ville, ainsi que la situation et l'avenir des églises, avec ce qu'ils étaient 30 ans auparavant lorsqu'il arriva à New York et qu'il entra pour la première fois en un jour de dimanche dans cette même église où il entendit une prédication du révérend docteur DeWitt. Il y a peu d'années, dit-il, que cette partie de la ville semblait être dans un état tellement désespéré qu'on songeait presque à l'abandonner à Mammon, tant l'esprit de mondanité avait pénétré profondément dans les congrégations qu'il habitait. Mais en présence des résultats produits dans le courant de l'année dernière, en présence de ces foules qui se sont rassemblées pour prier tous les jours de l'année, à l'heure des plus grandes occupations et des affaires de tout genre, en présence de tant d'âmes converties et de tant de cœurs vivifiés et réjouis, nous sommes tous obligés de nous écrier « Oh, quelle œuvre le Seigneur a faite !» Le vénérable docteur Banks de l'Église méthodiste épiscopale fit observer que c'était ici la première tentative d'union chrétienne qui eût jamais réussi. Il avait employé, disait-il, de longues années de son ministère à guerroyer contre les autres dénominations, mais dernièrement il s'était mis à prêcher sur le ton de la charité, et il se proposait d'insister toujours davantage sur ce thème jusqu'au moment où le Seigneur l'appellerait à se reposer auprès de lui de ses labeurs. Ces paroles, prononcées avec l'accent de l'affection la plus vive pour tous ceux qui aiment Jésus-Christ, et venant d'un vétéran dans le ministère qui n'avait plus que peu de temps à vivre, produisirent une impression profonde. Après une prière de l'orateur précédent, le révérend docteur Gillette prit la parole. Il sut faire vibrer bien des cœurs et produisit de bien douces émotions. Il rappela les triomphes remportés pendant le cours de l'année précédente par le peuple de Dieu, et après avoir donné une appréciation générale des résultats obtenus, il transporta ses auditeurs ravis dans ces demeures resplendissantes où les saints et les anges expriment par les accords de leurs harpes éternelles leur joyeuse sympathie pour les âmes rachetées et célèbrent dans leurs cantiques les miséricordes infinies de l'Éternel envers les pécheurs. Le révérend docteur Vermilic de l'Église réformée hollandaise intercala quelques observations et le docteur Azam Smith de l'Église presbytérienne fit la prière. Après cela, le docteur Adams de la même Église raconta quelques-unes des grâces les plus signalées dont le Seigneur avait enrichi notre patrie au moyen de ce grand réveil. Il parla du grand nombre d'âmes sauvées, des fidèles dont le cœur avait été réjoui et fortifié, des familles qui avaient été bénies, des cultes domestiques qui en étaient résultés, de l'accroissement survenu soit dans le nombre des pasteurs, soit dans celui des candidats au Saint-Ministère, et de l'augmentation extraordinaire de la puissance des Églises. Il parla aussi des pays étrangers dans lesquels cette influence précieuse s'était fait sentir. Il donna des détails sur le mouvement qui commençait à s'opérer dans l'Église épiscopale d'Angleterre et sur les efforts qu'elle faisait déjà pour faire parvenir l'Évangile aux classes ouvrières et pauvres. Il dit entre autres choses qu'il venait de recevoir une lettre d'un serviteur de Christ demeurant à Genève en Suisse qui lui demandait des détails sur ce réveil. Preuve que dans l'Ancien Monde, on était sous l'empire des mêmes préoccupations que dans le Nouveau, alors même qu'on ne leur donnait pas encore le même nom. Un étranger se leva alors pour relater certains incidents qui prouvent la réalité et la profondeur de cette grande œuvre, et il termina en exhortant les chrétiens à jeter avec persévérance leur pain à la surface des eaux et à s'en remettre dans un esprit de prière à celui qui peut seul féconder leurs efforts. Le docteur DeWitt dit avoir reçu des lettres de deux pasteurs de l'Église épiscopale de New York dans lesquels ils lui expriment leur regret de n'avoir pu se rendre à cette assemblée à cause de leurs occupations. Le révérend docteur Spring termina par une courte allocution et le révérend Quiller fit une prière et le révérend Banks donna la bénédiction. Pendant le cours de cette réjouissante assemblée, au milieu des louanges et des actions de grâce, nul dans cette foule immense ne se doutait des émotions terribles qu'éprouvait un pauvre pécheur. Tandis qu'on bénissait Dieu pour tous les miracles d'amour qu'il avait accomplis, l'Esprit agissait avec sa toute-puissance sur un malheureux qui roulait de sinistres pensées et il l'amenait à se repentir et à renoncer à son péché. En passant dans la rue, cet homme avait vu la foule se porter dans l'église et, poussé par la curiosité, il y avait suivi, le cœur en proie à de ténébreux projets. Il parvint à entrer, non sans difficulté, et son attention fut bientôt fixée par les paroles qui frappèrent son oreille. En ce moment même, il préméditait un meurtre. Mais la parole de Dieu, qui est plus aiguë qu'une épée à deux tranchants, pénétra jusqu'à son cœur et le bouleversa. Ceci se passait le 23 septembre. Le 2 octobre, c'est-à-dire 9 jours plus tard, un homme arriva tout essoufflé dans la salle supérieure de Fulton Street, disant qu'il voulait écrire une demande de prière. J'étais assis en ce moment près d'une table, occupé à rédiger le rapport de la séance précédente. Je lui donnai aussitôt une plume et du papier, lui disant de s'asseoir et d'écrire ce dont il avait besoin. Il me rendit le papier en me priant de le présenter à la réunion qui allait commencer dans 10 ou 12 minutes. Voici ce qu'il avait écrit. « Les prières de cette assemblée sont humblement demandées en faveur de G.B. qui a passé sa vie dans de coupables désordres et qui, encore la semaine passée, préméditait de commettre un meurtre et d'en finir aussitôt avec son désespoir en se suicidant. G.B. » Il avait signé cette demande de son nom véritable, écrit en toutes lettres. Je me mis à le regarder avec stupeur, ayant peine à croire à sa sincérité. « Mais, lui dis-je, ce n'est pas possible. Vous vouliez commettre un meurtre et un suicide ?»« Oui, c'était mon intention bien arrêtée, » répondit-il sans hésiter et d'un air résolu. « J'en avais réellement l'intention et je l'aurais fait sans cette réunion de prière dans l'église. » Je ne pouvais encore prêter foi à ces paroles, tant ma surprise était extrême. Je me levai et, m'étant approché de lui, je fixai mes yeux sur les siens pendant 1 ou 2 minutes, cherchant à force de calme et de ferme volonté à connaître le fond de sa pensée, mais je ne trouvai point de meurtre dans son regard. « Ce n'est pas possible, » lui répliquai-je. « C'est parfaitement possible, » dit-il, « c'est vrai. Sans cette réunion de prière dans l'église, je vous répète qu'il est une personne qui serait avec moi en ce moment même dans l'éternité, et cela depuis plusieurs jours. » Il avait articulé ces paroles avec tant de naturel et de fermeté que je commençais à le croire. « Et qui vouliez-vous donc tuer ?»« Une femme. »« Pourquoi ?»« Parce qu'elle m'avait traité outrageusement. »« Avez-vous encore des pensées de meurtre dans le cœur ?»« Oh non. » »« Avez-vous jamais commis de crime ?» lui dis-je, jetant alors les yeux sur la requête et pensant que certaines expressions pouvaient bien faire allusion à des forfaits commis dans le courant de sa vie. « Jamais, » dit-il du même ton décidé. « Avez-vous été en prison ?»« Jamais, pas une seule fois en ma vie. »« De quel pays êtes-vous ?»« Je suis anglais, mais j'habite en Amérique depuis plusieurs années. »« Votre mère était-elle pieuse ?» D'abondantes larmes remplirent ses yeux jusqu'à l'aveugler. « Oh oui, monsieur, ma mère était une femme de prière, et je crois sincèrement que ce sont ses prières qui ont retenu ma main ce jour-là. »« Comment ?» J'avais caché dans ma poitrine le couteau fatal et je portais dans ma poche le poison. J'espérais rencontrer ma victime dans la rue et je voulais la tuer sur la place même. Après cela, je devais mettre fin à ma malheureuse vie en avalant le poison. Mais je crois que les prières de ma mère ont été exaucées et que c'est ce qui a fait échouer mon projet. Désirez-vous sincèrement devenir chrétien ? Oui, monsieur. Éprouvez-vous une véritable horreur des crimes que vous méditiez ? « Oh, oui, monsieur, je m'en repens. Je suis un grand pécheur. » Le Seigneur Jésus est un grand sauveur. Il a prié pour ses propres bourreaux en mourant, et il peut vous pardonner. Le chant venait de commencer dans la salle au-dessous. Nous y descendîmes ensemble. Je le fis avancer de mon mieux, et je parvins à lui procurer une place dans la foule compacte qui se pressait de toutes parts. Elle passa de main en main jusqu'à ce qu'elle fût arrivée sur le pupitre du président. J'aperçus son extrême surprise à mesure qu'il la parcourait. Dès que l'occasion s'en présenta, il se leva et la lut à l'assemblée. De ferventes prières s'élevèrent aussitôt. Malgré l'énormité de ses crimes, il y avait dans les prières quelque chose qui semblait dire « Nous croyons que les péchés de cet homme lui seront pardonnés. Le plus grand des pécheurs peut être absous. » L'angoisse de ce malheureux ne faisait qu'augmenter de jour en jour. Quelques chrétiens touchés jusqu'au fond de l'âme de ces tortures morales allait souvent s'enfermer avec lui dans une chambre haute, et là ils conversaient et priaient de longues heures ensemble, s'efforçant d'ouvrir son cœur à l'espérance du salut. Mais c'était en vain. Leur charité était impuissante à soulager tant de désespoir. Parfois on le questionnait pour découvrir s'il ne recelait point encore dans les replis de son âme quelque idée de suicide. À cette seule pensée on le voyait frissonner, et bientôt il éclatait en sanglots. La perversité de son cœur et l'énormité de son péché lui apparaissaient alors dans toute leur horreur, et le malheureux tombait dans un état de prostration physique et morale effrayant à voir. Cependant, il reparaissait chaque jour aux réunions de midi et du soir. Un sentiment secret le poussait à rechercher sans cesse la compagnie des chrétiens qui se réunissaient pour prier. Il sentait confusément qu'en ce lieu seul, il pouvait trouver cette paix qui le fuyait toujours. Son cœur ne s'ouvrait point encore à l'espérance, mais évidemment, la grâce le guidait pas à pas vers le port du salut. Un soir, pendant que l'assemblée chantait l'hymne « rocher des siècles qui t'entr'ouvrit pour moi, que je puisse me cacher en toi. » On entendit tout à coup la voix du pauvre pécheur s'élever du milieu de la salle. Il était à genoux sur son banc et demandait grâce à haute voix. « Oh, que dois-je faire » disait-il, « que dois-je faire pour être sauvé ?» Et par des phrases entrecoupées, il continuait à implorer le pardon de Jésus-Christ. Néanmoins, le chant continua jusqu'à la fin, sans que l'on parût avoir fait attention à cette interruption. Mais, aussitôt après, on se mit en prière expressément pour lui. À peine la prière avait-elle commencé que sa voix cessa de se faire entendre. Tous les cœurs s'étaient réunis pour pousser un même cri vers Dieu, afin de lui demander la grâce de ce pauvre pécheur. Les prières se succédèrent ainsi pendant l'heure entière et se concentrèrent jusqu'au dernier moment sur lui seul. L'assemblée évacua la salle, mais l'infortuné fut le dernier à la quitter tant il désirait prier encore. Le lendemain soir, il s'y trouva de nouveau. Mais quel changement dans ses traits! Ce n'était plus le même homme. Un sourire calme et plein d'une douce sérénité avait remplacé cette expression de tristesse immense qui lui était habituelle. Sa douleur avait disparu, et disparu pour jamais. Il se réjouissait d'une joie infinie en Christ son Sauveur. Depuis lors, il se fortifie chaque jour davantage, et sa vie tout entière prouve qu'il est désormais une nouvelle créature en Jésus.